Bon, bonjour donc à tous ceux qui sont connectés sur cette conférence téléphonique. Donc, je dirais, comme tous les mois maintenant, depuis plus d'un an, nous allons passer 30 minutes avec un des membres de l'équipe de gestion. Aujourd'hui, on est avec Adrien Baumler pour parler d'échiquier-major SRI Growth Europe. Donc, Adrien, on le sait, vous êtes trois dans l'équipe, tu représentes aujourd'hui. Donc l'équipe, je pense qu'on va structurer en fait ces 30 minutes qu'on va passer ensemble de façon assez simple. On va revenir un tout petit peu sur 2019, hein, parce que c'est vrai que 2019, finalement, ça a été une très bonne année pour Échiquier Major. Et je pense que c'est pas mal de revenir un peu sur les raisons. Et puis après, bien sûr, se projeter sur 2020, sur les choix qui sont faits dans la stratégie, et de façon à ce qu'on puisse tous comprendre un peu comment peut fonctionner cette stratégie-là sur les mois qui viennent. Donc 2019, je le disais, très bonne année, puisque le fonds termine avec une performance sur sa part retail, comme on dit, hein, de 40%, surperformant l'indice de référence donc d'environ 16%. Ma première question, c'est pour toi, qu'est-ce qui explique cette très très forte surperformance de la stratégie dont tu es en charge par rapport à l'indice.
Oui, merci Pierre, merci de m'accueillir. Alors d'abord, je pense que il faut souligner que l'équipe travaille ensemble depuis maintenant à peu près 3 ans et on a fait un gros travail depuis 2017 pour repositionner le fonds sur la croissance, mais surtout sur la croissance et la qualité. Et donc, en fait, on cherche des entreprises qui ont vraiment le contrôle de leur destinée, qui sont résilientes à travers le cycle, qui ont des retours sur capitaux investis très élevés, mais à travers tout le cycle, et souvent avec des endettements financiers peu élevés, donc des entreprises qui sont nettement moins risquées. Alors, si on regarde un petit peu ce qui a bien marché en 2019, finalement, c'est ce repositionnement du fonds, et c'est le style croissance et qualité. Et on a d'abord eu, je dirais, une sélection de valeurs qui a vraiment bien marché. On n'a pas eu d'accident. On a eu un certain nombre de dossiers comme Cellnex, ASML, London Stock Exchange qui ont pris plus de 80%. Je crois qu'on a 40, on a plus de la moitié du portefeuille qui a pris entre 40 et 95% en 2019. Donc ça a bien marché. L'exposition sectorielle également a assez bien marché, très exposé technologie, 29% du fonds. L'exposition sur les valeurs industrielles et la santé ont également bien marché. Ce qui a très bien marché aussi, c'est la non-exposition à des secteurs qui ne correspondent pas du tout au fonds, c'est-à-dire les télécoms, l'énergie, les commodities en général, qui n'ont pas bien marché. Donc cette non-exposition nous a été très très bénéficiaire. Je dirais finalement, le style croissance et qualité a bien marché en 2019 et notre positionnement assez défensif avec 70% du portefeuille exposé à notre poche de croissance visible, c'est-à-dire les beaux dossiers que vous connaissez bien, hein, SAP, LVMH, L'Oréal, avec des bêtas souvent à 1 ou inférieur à 1, ben tout ça a bien marché. Et puis je dirais pour finir, on a eu un certain nombre d'opérations financières dans le fonds qui ont plutôt bien marché. On a eu le rachat de Refinitiv par London Stock Exchange en Angleterre qui est un beau deal qu'on soutient, qui a bien marché. Et puis le rachat d'un certain nombre de portefeuilles de Tour Télécom pour Cellnex, qui a vraiment très très bien marché. Donc en somme, on n'a pas eu d'accident, le style a bien marché et puis la sélection de valeurs a bien marché.
Alors, qu'est-ce qu'on tire comme enseignement après une belle année comme ça, en fait, de surperformance?
Bah, je pense qu'on tire deux enseignements. D'abord que la croissance, c'est une proposition attractive, elle surperforme. Sur la durée, elle surperforme depuis 10 ans, elle surperforme pas tout le temps, mais clairement, on est dans un environnement économique et de taux bas qui font que la croissance marche bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que la prime des marchés pour la croissance était historiquement de 25% par rapport au marché. Elle a plutôt eu tendance à croître, donc on est plutôt vers 35%, mais finalement, acheter un titre cher, ça ne veut pas dire qu'il va sous-performer. Donc là, en soi, la valorisation n'est pas une contrainte à la surperformance. Et je dirais le deuxième point, c'est que ce qui est probablement plus intéressant que la croissance, et c'est ce qu'on essaie de capturer dans Major, c'est le facteur qualité. Le facteur qualité, donc les entreprises qui sont résilientes, des ROCE élevés, des bilans financiers qui sont pas tendus, c'est un facteur qui marche très bien sur longue période, qui marche très bien sur courte période, qui a surperformé la croissance et le marché sur 10 ans et 20 ans, et qui marche plutôt bien d'ailleurs dans des phases où la croissance économique est assez modérée. Et comme c'est le cas aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas en phase d'expansion économique forte, ni en phase de recouvrement. Et donc le style de qualité marche bien, et ça, clairement, on l'a vu à plein en 2019. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des entreprises qui ont le contrôle de leur destinée, c'est des ROCE élevés, c'est des bénéfices nets par action qui sont résilients et en croissance, et des leviers financiers qui sont pas très élevés. Donc vraiment, c'est des entreprises comme SAP, ASML, Roche, toutes ces belles boîtes qu'on connaît bien.
Alors, une question peut-être sur l'ISR, parce que on le sait, hein, Échiquier Major est un des fonds historiques de la maison certifiée ISR. Maintenant, nous avons 6 fonds, je le rappelle, hein, y compris d'ailleurs un fonds de crédit. Nos fonds, maintenant, la gamme Agénor aussi est certifiée ISR. Est-ce que derrière cette performance, on peut voir aussi un impact de la thématique ISR?
Bien sûr, c'est évident. En fait, l'ISR, c'est très important à la financière de l'échiquier, c'est très important pour le fonds Major, parce que ça nous emmène vers des entreprises de croissance et de qualité. Donc, c'est vraiment l'ADN de Major. Et c'est avant tout le sujet à la financière de l'échiquier. On est convaincu que la croissance, la qualité et l'ISR sont une combinaison gagnante qui vous emmène, enfin, dans un contexte de taux faible qui vous emmène, enfin, qui marche bien et qui vous emmène vers des belles boîtes avec des thématiques de croissance longue. C'est des boîtes qui sont bien gérées. Et d'ailleurs, quand on regarde le portefeuille de Major, on a à peu près 85% du fonds qui est mappé en fonction d'un ensemble de thèmes, des thèmes qui vous parlent, qui sont pour moi des thèmes ISR. L'accès à la santé et la nutrition, c'est un thème important. L'efficience énergétique, on en parle tout le temps. La digitalisation de l'économie, la résilience du système financier. Tout ça, ce sont des thèmes qui sont pas tellement liés au cycle économique et qui sont des méga-trends qui durent année après année et qui ne seront pas remis en cause par un léger affaiblissement de la croissance qu'on a pu voir en 2019 à certains moments. Donc l'ISR, clairement, nous emmène vers ces thématiques longues, nous emmène vers des entreprises bien gérées et des entreprises où il y a un alignement d'intérêts entre les actionnaires et les managements. Donc les décisions sont généralement bien prises. Vous avez certainement vu la mise à jour de l'étude ISR de la financière de l'échiquier. Donc on fait de la notation ISR depuis 10 ans. On a des notes, on a plein d'entreprises qui sont notées. Et quand vous faites un portefeuille équilibré ou équipondéré des meilleures notes, des 40 meilleures notes de la financière de l'échiquier, vous
Année
avez
après
année
année.
après année, et repondéré tous les trimestres, vous voyez une performance de presque 360% et qui explose tous les indices qu'on peut voir. Et donc, clairement, c'est notre pierre à cette croyance forte. C'est le travail qu'on a fait pour montrer qu'il y a clairement une corrélation entre l'ISR, la bonne gouvernance, le E et le S, et également la performance financière et boursière. Et ça, c'est
Bon,
très important.
on vient de parler de 2019, de la très bonne surperformance. On a parlé des enseignements, on a parlé de l'apport de la thématique ISR. Moi, ma question, c'est une question qu'on nous pose très très souvent. C'est après la très forte hausse, en fait, la valorisation, malgré tout, du portefeuille, sa très bonne performance, la hausse de la thématique croissance, je dirais. Que faire en fait quand on est gestionnaire sur cette thématique et qu'est-ce que vous faites?
Eh ben c'est la question. Enfin, il faut se poser la question de la valorisation dans un contexte de forte hausse des marchés. Et il faut se poser la question de savoir si la croissance marche toujours. Historiquement, la croissance n'a pas toujours marché. Si vous regardez la période 2001-2006, elle a sous-performé. 2014 et 2016 en particulier avec l'élection de Trump et le Brexit, ça a sous-performé. Mais bon, sur longue période, la croissance marche bien. Alors, nous, on pense que dans un environnement de taux faible, on trouve que la croissance va continuer à bien marcher en 2020. On pense surtout que les actions restent attractives. Si vous regardez les primes de risque des actions par rapport à d'autres actifs, Et si vous regardez les primes de risque des actions du marché européen ou du segment croissance, ces primes de risque n'ont pas tellement évolué depuis 10 ans. C'est-à-dire la prime de risque moyenne pour le marché européen est de 6,7%, elle est de 5,3% pour le segment croissance. Ça a un petit peu évolué, mais on est toujours dans la moyenne. Et donc ce que vous voyez, ce qui est important de comprendre, c'est que l'expansion des multiples qu'on a pu voir ces dernières années est essentiellement liée à la baisse des taux sans risque. Mais la prime de risque, elle est toujours à des niveaux qui sont acceptables, ce qui veut dire que les acheteurs d'actions sont toujours rémunérés pour acheter des actions par rapport à d'autres actifs. Et si vous comparez, par exemple, au crédit high yield, vous avez plutôt une compression de cette prime de risque qui était proche de celle des actions en 2012 et qui aujourd'hui est plutôt à 200 points de base. Donc il y a une forte contraction. Donc tout ça pour dire que nous pensons que les actions sont toujours attractives, que les actions de croissance sont toujours attractives et que la qualité est toujours attractive. Donc clairement, on aime toujours ce style de gestion en 2020. Il n'y a pas énormément de croissance en 2020. On n'est pas en phase de retournement de cycle. Et donc ce style de gestion avec croissance et qualité continuera de bien délivrer. D'ailleurs, depuis le début de l'année, marche très bien.
Alors là, on vient de terminer notre tournée stratégie 2020. On a fait la présentation dans, je crois, 11 villes sur ce dernier mois. On concluait en fait la partie macroéconomique par une phrase qui recommandait finalement la sélectivité sur la thématique croissance. Qu'est-ce que ça veut dire dans le cas d'échiquier majeur, plus de sélectivité pour 2020? Est-ce que c'est une modification des choix, une adaptation de la stratégie d'investissement? Enfin, que peux-tu nous dire?
Alors, nous, on est un fonds de croissance, c'est notre ADN, donc on ne va pas changer notre style de gestion et certainement on ne va pas courir après les styles de gestion. En revanche, ce qui est vrai, ce qui est important, et je pense quand on parle de sélectivité, c'est qu'il faut faire attention à la valorisation. Et nous, on fait un gros travail justement de modélisation de toutes les entreprises pour s'assurer qu'on a encore du potentiel de hausse par rapport à nos objectifs de cours à 3 ans. Donc, ce que ça veut dire finalement, la sélectivité, c'est qu'il faut faire attention à la valorisation par rapport à la croissance bénéficiaire. Donc, on va regarder toute une série de ratios pour s'assurer que finalement, si on paye un multiple élevé, on a quand même une croissance bénéficiaire forte. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Quand on achète du Temenos à 36 fois les résultats 2020, est-ce que c'est trop cher si je sais que cette entreprise va croître ses bénéfices nets par action de 15 à 20% par an pendant 10 ans? Moi, ça me paraît tout à fait acceptable. Donc, c'est ça la sélectivité, c'est s'assurer qu'on se laisse pas porter par complaisance dans des dossiers qui ont bien marché. En revanche, ce qu'on a fait en fin 2019, pour revenir sur cette question de valorisation, c'est qu'on a vendu on a allégé des positions dans des dossiers qui avaient très très bien marché, comme Cellnex, ASML, Nestlé, Straumann, même un peu de Temenos, parce qu'on trouvait que ça avait trop monté et qu'on avait moins de potentiel de hausse par rapport à nos objectifs à 3 ans. Et on a réinvesti dans certaines actions, parfois un peu plus risquées, mais où il y avait un potentiel de hausse plus fort. Donc je pense à des actions comme Philips ou Infineon, peut-être un peu plus cyclique, mais des convictions fortes du portefeuille, où on voyait un peu plus d'upside. Voilà. Donc c'est ça pour nous être plus sélectif, mais clairement, on ne court pas après les styles et on reste dans l'ADN du fonds qui est croissance et qualité, et on fait un gros travail sur la
Donc
valorisation.
vous êtes en gestion active sur les différentes positions, vous avez d'une certaine façon une gestion dynamique des poids des différentes lignes en fonction des objectifs, mais il n'y a pas de changements radicaux en fait, hein, puisque vous restez sur la thématique du fond, bien entendu.
Absolument. Pas de changement radical. On est sur un environnement qui est finalement assez restreint. On crée des portefeuilles à peu près 33, 34 valeurs sur un environnement qui est de 170 valeurs investissables pour nous. Donc finalement, on fait peu d'entrées, peu de sorties. On a entré 5 nouveaux titres en 2019 et on en a sorti 3. Et je pense qu'en 2020, ça sera probablement semblable. Mais on fait une gestion dynamique des poids à court terme pour jouer en fonction de notre vue de marché, plus ou moins risquée. Mais clairement, on ne sort pas beaucoup de valeurs par an. On a plutôt une stratégie très très long terme.
Et alors, pour rentrer un peu dans le détail de la structure du fonds, quelle est la structure du fonds? Est-ce qu'il y a tu peux nous dire des choses sur la structure de fonds sur ce début d'année pour aborder en fait cette année 2020?
Oui. Alors, ce qu'on a, donc on est en fait depuis début 2018 assez défensif. Et on est toujours assez défensif début 2020, c'est-à-dire qu'on a à peu près 70% du portefeuille qui est dans la poche dite de croissance visible. Ce sont les très beaux dossiers que vous connaissez tous, des entreprises comme SAP, Compass, L'Oréal, LVMH, qui ont des taux de croissance de 5% au moins ou plus pour le chiffre d'affaires, des retours sur capitaux investis qui sont de 20% ou plus, donc vraiment des modèles très établis. Et qui constitue vraiment le cœur du portefeuille. Donc on est à 70%. Ensuite, on a 20% du portefeuille qui est exposé à notre croissance dite cyclique. Donc ce sont des très beaux dossiers aussi, mais un peu plus exposés au cycle, avec souvent un peu plus d'upside par rapport à nos objectifs de cours. Donc des valeurs comme Michelin, des valeurs comme Infineon, des valeurs comme Legrand. Donc vraiment des très beaux dossiers, mais un petit peu plus exposés au cycle. Et c'est vrai qu'on a eu un peu tendance depuis. Je dirais depuis septembre 2019, à renforcer cette poche pour ajouter un petit peu de risque au fond, parce qu'on voyait bien que les marchés repartaient un petit peu plus dans un style un peu plus cyclique. Mais tout ça, on le fait vraiment à la marge et on garde vraiment l'ADN du fonds. Et puis les 10% restants, c'est ce qu'on appelle notre poche ultra croissance. Donc ce sont des modèles qui sont parfois disruptifs ou juste de forte croissance, donc des boîtes. Comme Temenos, comme Straumann en Suisse, ou ASML, donc des dossiers où on a en général 10% de croissance ou plus. Et ça, c'est 10% du fonds, et ça, c'est souvent des modèles qui sont plus risqués, avec des bêtas un peu plus élevés, et on a eu tendance à légèrement les remonter aussi un petit peu. Mais tout ça encore vraiment à la marge.
Alors, je suis obligé de la poser, cette question. Tu te doutes de quoi il s'agit. Parlons un peu de ce fameux virus, ce
Ah
coronavirus.
oui.
Et comment est-ce que vous, gérant, vous réagissez à cette situation? Comment vous l'analysez? Et quelles sont les décisions qu'on prend quand on a cet aléa, en fait, qui est un peu hors scénario, hein, par rapport à ce que l'on pouvait, bien entendu, dessiner pour l'année 2020?
Alors le coronavirus, ça va avoir des impacts, mais bon, c'est quand même assez ponctuel. Ou si on le met en perspective par rapport à SARS, je crois, de 2003, ça avait duré à peu près 4 mois. Bon, ça vient de commencer. Ça aura un impact sur certains secteurs. Je pense en particulier au luxe, hein. Donc, on a déjà vu Rémy Cointreau qui en a un petit peu parlé. Ça aura certainement un impact sur des valeurs comme LVMH ou L'Oréal, parce que leur exposition à la Chine est assez forte. L'Oréal fait 16% de son chiffre d'affaires en Chine, donc c'est pas négligeable. Maintenant, ça va pas durer éternellement. Et je pense que si on a des baisses de cours liées au coronavirus, pour nous, ça va plutôt être des opportunités d'achat qu'autre chose.
D'accord.
Faut pas oublier qu'on est sur des boîtes de qualité avec des bilans qui sont très solides. Donc, il n'y a pas de risque inhérent pour nos entreprises. Il y a un risque ponctuel à court terme qui fera peut-être ou peut-être pas d'ailleurs baisser le titre, mais, certains titres. Je note par exemple, on a eu un warning de Capri Holding, donc c'est la marque Michael Kors aux États-Unis, qui a fait un avertissement sur les résultats ce matin lié à coronavirus en disant, voilà, ils n'ont plus tellement de visibilité pour le Q1 parce qu'il y a pas mal il y a pas mal de magasins en Chine qui sont fermés. Voilà, donc pour nous, on n'est pas très inquiet parce que notre style de gestion nous le permet et qu'on est sur des boîtes de qualité, mais on ne sait pas exactement ce qui va se passer.
Bon, sur l'exposition géographique, est-ce qu'il y a quelque chose à mentionner? Entre autres, vous avez toujours une position sur le UK, en fait, hein, relativement significative ou inférieure à celle de l'indice, probablement. Mais...
Alors, on a les deux gros poids régionaux, c'est le UK, donc on est à 28%, qui est un peu en dessous du poids de l'indice. Ensuite, c'est la France qui est à 25-26%,
Un peu au-dessus.
un peu au-dessus. Alors, nous, on ne fait pas d'allocation régionale, mais il se trouve qu'au Royaume-Uni, il y a quelques très très belles entreprises qu'on aime beaucoup. Donc, je pense à des entreprises comme AstraZeneca, qui est un des très gros poids du fonds, c'est à peu près 4%. On a des boîtes comme Experian, Rotork, London Stock Exchange, Unilever ou RELX, qui sont vraiment des belles entreprises de croissance et de qualité avec une gestion de l'ESG qui est parfaite. La France, c'est un peu le même sujet. On ne cherche pas à être exposé à la France, mais il se trouve qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont les attributs que l'on cherche dans le fond. Maintenant, on est dans une situation, on a le Brexit qui a été voté, donc maintenant, je crois que ça va se faire. Ça va changer les choses pour nous, clairement, puisque le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne et bon, Major est un fonds qui est payable. Donc, nous devrons revoir nos poids. Alors, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on n'y voit pas très clair. Ce qu'on sait, c'est qu'à partir de décembre 2020, on aura 21 mois pour pour adapter notre portefeuille. Donc on a un peu de temps et on commence donc aujourd'hui à se poser la question de comment on va réorganiser un peu notre portefeuille, donc en diminuant le UK, parce que le Royaume-Uni, parce que ça ne sera plus un pays de l'Union européenne, donc il faudra réduire ses poids. Et voilà, donc c'est ce qu'on va faire sur les deux prochaines années. Mais
D'accord, mais il n'y a
clairement,
pas
ça aura un impact.
d'urgence,
Il n'y a
quoi.
pas
Enfin, c'est.
d'urgence et à court terme, ça n'aura pas d'impact et on sera pas, on va le faire très calmement.
Et encore une fois, les entreprises sur lesquelles on est positionné, finalement, sont probablement peu soumises aux aléas des négociations, de votre point de vue.
Ah, elles ne sont pas soumises du tout, non. Nous, on est sur des grandes entreprises qui sont d'ailleurs mondiales. Si vous prenez Experian, d'ailleurs, qui est une entreprise qu'on aime beaucoup, 50% du chiffre d'affaires est aux États-Unis, 14% au Royaume-Uni, donc finalement, ça n'a pas beaucoup d'impact. Et le reste, c'est en Amérique latine et en Asie, donc ça n'a pas beaucoup d'impact. Astra, c'est un peu le même sujet, c'est 10-12% au Royaume-Uni, le reste, dans le reste du monde, ce sont des entreprises mondiales. Mais il se trouve qu'il y en a beaucoup au Royaume-Uni, puisque c'est finalement un endroit où on trouve pas mal de grandes entreprises internationales de qualité.
Sur le cash, peut-être, parce que je crois que nos auditeurs le savent, certains de nos fonds ont des positions cash, certains de nos fonds ont des positions cash très très mobiles, entre autres c'est le cas maintenant des Échiquier Agressor qui a beaucoup renforcé en fait sa mobilité sous la conduite de Frédéric Buzaret. Le cash, quelle approche dans le cas d'Échiquier Majeur?
Alors le cash, c'est quelque chose qu'on a changé d'ailleurs depuis qu'on travaille ensemble depuis ces 3 dernières années où il y avait une position cash qu'on a repris le fonds et aujourd'hui il n'y a plus, on a 0,5 peut-être en fonction des dividendes, en fonction de diverses choses, mais on n'a pas très envie d'avoir du cash, on a ce luxe qu'on est un fonds de croissance, donc on ne court pas après les styles, donc finalement c'est pas à nous de faire de l'allocation d'actifs, c'est à vous de le faire. Nous, on est dans notre style, on achète des entreprises de croissance et voilà, donc on n'a pas envie d'avoir de cash, on ne voit pas pourquoi on en aurait. Donc pas de cash, juste toute petite position cash.
C'est une
Voilà.
réponse très claire. Je crois
Voilà.
qu'on n'a pas besoin de passer
Voilà,
plus
voilà.
de temps. Trois, quatre premières positions, peut-être, sur ce début d'année.
Oui.
Un petit mot rapide.
Oui, bah, en fait, elles n'ont pas tellement changé depuis quelques mois. On a la première position du fonds. C'est Téléperformance, qui
La
est
valeur
une valeur
française.
française, qui était une mid-cap, qui est devenue une large-cap. C'est le leader mondial des centres d'appel, très très bien géré, vraiment profil de croissance extraordinaire. Ils font des acquisitions qui sont superbes. Et donc un profil de croissance qui est en train de s'accélérer d'ailleurs avec la modération de contenu donc, sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook.
Ils
Et
sont
ça
aussi
nous
impliqués
intéresse beaucoup,
là-dedans.
ouais, très impliqués
D'accord.
là-dedans.
Ah oui, effectivement.
Je dirais le deuxième poids, c'est Novo Nordisk, donc c'est un peu plus de 4% du fonds, qui est le leader mondial dans le diabète, dans le traitement du diabète et de l'obésité d'ailleurs. Donc c'est un vrai sujet puisqu'il y a 650 millions de diabétiques dans le monde, dont une grosse partie aux États-Unis. C'est une entreprise qui est très très bien gérée, avec des marges très élevées, à peu près 45% de marge opérationnelle. Moi j'aime beaucoup le management, ils ont un bon profil de croissance. Ils avaient connu une période de ralentissement il y a 3-4 ans, mais là vraiment la croissance est repartie, avec des nouvelles molécules où ils ont un leadership mondial, et donc ça j'aime beaucoup. Et puis sinon on a RELX, qui est un leader anglais, enfin mondial, mais basé en Angleterre, dans le service aux entreprises, un service digital en entreprise, par exemple dans les services juridiques, dans l'analyse de données, des choses comme ça, qui est très très bien géré. Pas très grosse croissance, hein, 4% de croissance des ventes, mais une bonne croissance d'IPS. Et le quatrième poids, c'est AstraZeneca dans la pharmacie, qui est le leader mondial dans le traitement du cancer, dans l'oncologie, qui est extrêmement bien géré par un Français d'ailleurs, Pascal Soriot. Et ça, c'est vraiment une entreprise qui est d'ailleurs dans le fonds, en fait, depuis, je pense, 2012. Donc, qui est vraiment dans le fonds depuis très longtemps, qu'on a renforcé en 2018, qu'on a doublé la position. Et ça délivre très très bien, et je pense que dans 5 ans, elle sera encore dans le fond.
Et bon, et tout ça, des valeurs qui ont des gouvernances
Ah, des gouvernances impeccables,
impeccables.
ouais. Non, c'est le ESG moyen, en fait, c'est 7,2%, 7,2 sur 10. Donc on est vraiment, nous, on a le droit de mettre des valeurs à partir de 6 sur 10 dans notre notation ESG, mais on est à 7,2 en moyenne. Donc c'est des entreprises vraiment qui gèrent ça très bien. Ce qui est intéressant d'ailleurs qu'on a introduit, et on n'en a pas parlé, mais on a dans notre construction de portefeuille, on intègre l'ISR pour les poids. Donc toutes les valeurs qui ont une note ESG au-delà de 7,2, donc des entreprises très bien gérées, on leur donne un bonus de 50 bips, de 50 points de base, parce qu'on a notre conviction s'en sort renforcée. Donc Astra pourrait très bien être à plus de 5% si on voulait, grâce à sa position ESG qui
Et
est
ça,
très
c'est
forte.
depuis quand cette...
C'est une politique qu'on a mise en place il y a à peu près 2 ans.
2 ans,
Voilà.
d'accord. Alors, je vais parler d'un sujet un peu différent, mais je voudrais t'interroger aussi parce que vous gérez au sein de votre équipe aussi un fonds qui s'appelle Alpha Major, qui est un fonds peut-être dont on parle moins. Enfin, qu'est-ce que c'est? Enfin, je peux expliquer pourquoi. Alors, Alpha Major, c'est un fonds on vous a demandé de développer parce qu'on voulait finalement pouvoir offrir un fonds PEA avec une volatilité contrôlée. Et quelle est donc la stratégie que vous avez mise en place sur Alpha Major pour, je dirais, répondre à ce cahier des charges?
Oui, c'est une bonne question parce qu'on parle peu d'Alpha Major et c'est un fonds qui délivre bien. En fait, Alpha Major, c'est Major. Donc, on réplique finalement la poche longue de Major. On investit dans les mêmes titres que Major et en face, on vend des futurs pour réduire l'exposition nette à 20%. Donc, on vend des futurs sur l'Eurostock 50 pour réduire la volatilité du fonds. Et avoir un fonds avec un drawdown et une volatilité qui est plus faible, mais qui profite de la génération d'idées de Major, son grand frère.
Donc on capte l'alpha sur la partie qui est couverte et on capte l'alpha et le bêta sur la partie non
Voilà,
couverte, c'est
c'est
ça?
exactement ça. Donc on capte l'alpha sur les titres détenus par Major, donc à quelque chose près, ça lui ressemble, c'est son frère jumeau. Mais on vend des futurs en face pour réduire l'exposition et le risque du fonds. Donc, et alors le dernier point, c'est que c'est. Et c'est ce qui plaît beaucoup aux gens, c'est que c'est un fonds qui est PEA-able. Donc on peut le mettre dans un PEA, puisqu'il a tous les attributs de Major, simplement avec une volatilité plus faible. Et depuis qu'on l'a lancé en avril 2019, il fait absolument ce qu'il doit faire. Il est en hausse à peu près 9% depuis avril, avec une volatilité assez faible. Et donc je crois que tout le monde est assez content.
Oui, une bonne résistance dans les périodes où le marché s'est
Absolument.
replié.
Absolument, dans les phases où il y a des replis de marché un peu
Oui.
plus forts et hausse de volatilité, finalement, Alpha Major résiste bien à la baisse avec une volatilité qui est beaucoup plus faible.
Oui,
Donc il fait
bon.
vraiment ce qu'il doit faire, en
Alors,
fait.
c'est un fonds qui est jeune.
Il a moins d'un an.
Et il a moins
Moins
d'un
d'un
an,
an.
donc il va falloir je dirais qu'il continue à faire ses preuves. Mais pour l'instant, je dirais, les résultats sont convaincants. Et répondent en fait aux objectifs qui
Ah
vous
ben
vous
les...
étiez fixés avec Alpha
Ah,
Major.
exactement, il correspond absolument à ce qu'on cherchait à faire. C'est un fonds qui marche très bien et c'est un fonds qui est totalement capacitaire. Puisqu'on est sur des grandes valeurs de croissance, donc on n'a pas de problème de liquidité. Et c'est un fonds qui fait à peu près 75 millions d'euros aujourd'hui et qui est tout à fait capacitaire. Donc on peut accueillir pas mal de
Oui, et
capitaux
qui a
encore.
beaucoup de succès
Et qui a
d'ailleurs.
beaucoup de succès, oui. Ouais.
Bon, Adrien, je crois qu'on arrive au terme du temps qu'on s'était fixé pour cette conférence téléphonique. Encore merci
Merci
pour
pour tes questions.
ta présence. Ce ne sont pas vraiment mes questions, ce sont des questions qu'on reçoit régulièrement lorsqu'on rencontre nos partenaires. Encore une fois, je crois qu'on a bien compris une thématique qui est la croissance, mais ça, pas simplement la croissance, je dirais la croissance de qualité qui a bien fonctionné en 2019, même très très bien fonctionné, et qui continue à offrir de la visibilité. Et puis un fonds aussi qui est géré de façon active, sur lequel vous avez rechargé d'une certaine façon les énergies à travers, tu l'as mentionné, un peu plus de croissance cyclique, bon, dans des mesure de l'ordre de 20% du portefeuille. Et puis cette gestion active aussi des poids sur la poche de croissance de qualité qui a été très profitable tout au long de l'année 2019 et qui devrait continuer à profiter de l'année 2020. Et surtout, pas de grande inquiétude sur le coronavirus qui probablement est quelque chose qui est amené je dirais, à moins inquiéter les marchés qui continueront à être soutenus grâce, entre autres, bien sûr, aux politiques accommodantes et un environnement de taux faible qui est un environnement qui est très favorable à la thématique de croissance et à la thématique de croissance de qualité.
Exactement, tu as très bien résumé.
Voilà, donc merci à tous et puis donc à dans un mois avec un autre rendez-vous avec un autre membre de l'équipe de gestion.